grand dialogue
Sigikafoba
Edowani wa makaran
Le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chenibiro
Halud Mawni
Chenibiri Sigikafoba
Le grand dialogue
Le grand dialogue
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 21 août 2014. Bienvenue à ce grand dialogue qui parle aujourd'hui de la relance des pourparlers d'Alger entre le gouvernement et les groupes armés prévus le 1er septembre prochain. Trois parties seront développées dans cette émission. Le report de la date des pourparlers a-t-il des conséquences sur le processus? Le statut à prévoir pour Kidal ou éventuellement pour les autres régions? Le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants armés dans le Nord? Pour débattre de cette question, Amadou Aya du parti Yelema est parmi nous aujourd'hui, parti de la majorité. Amadou Goïta du parti socialiste, parti de l'opposition. Ahbana Ag Amzata du groupe armé Touareg Gatia. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diara est à la mise en onde. Studio Tamani. Prévu pour le 17 août à Alger, l'Algérie, en sa qualité de chef de file de la médiation, a été saisie par les groupes armés afin de procéder à un léger report de la reprise des pourparlers. La prochaine date est fixée au 1er septembre prochain. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a annoncé la semaine dernière le report de la deuxième phase des pourparlers inclusifs inter-maliens. Alors, nous avons le représentant de Gatia aujourd'hui, groupe armé formé après la feuille de route signée entre le gouvernement et les groupes armés à Alger. Nous avons son représentant, Abana Ag Amzata, de Gatia. Dites-nous dans quel contexte est-ce que Gatia a été formé.
Merci. Comme vous le savez, suite aux événements du 24 mai à Kidal, en fait,
La visite du Premier ministre.
Du Premier ministre. Après, il y a eu les événements que vous connaissez. Et en fait, il n'y avait plus de la présence des FAMA sur le terrain. Le terrain était vide, particulièrement dans la région de Kidal, où toute l'armée malienne est retournée vers la région de Gao, vers la région de Tombouctou. Et face aussi au fait que la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le soutien au Mali, n'a pas pu sécuriser nos populations, n'a pas pu sécuriser nos intérêts sur le terrain. Et ça, ce n'est pas seulement du côté de la MINUSMA, mais même du côté de la force Serval, puisque c'est les deux forces qui sont sur le terrain. Et vu toute cette situation, on s'est vu en réalité, on a vu vraiment que nos communautés, ce n'est pas seulement les Imad, les Gatia aujourd'hui, c'est un ensemble de communautés. Il y a les Imrad, il y a les Shérifan, il y a les Deggeklan, il y a tout le monde. Et c'est un groupe qui est ouvert aussi à tout le monde.
Donc c'est un groupe d'autodéfense.
C'est un groupe d'autodéfense. Donc, devant toute cette situation, on a vu la nécessité tout de suite de prendre des dispositions. Sinon, ça ne va pas devant une situation où nos populations sont laissées à la merci de tout le monde, où les populations en réalité sont frappées, et devant aussi la déclaration des mouvements. La coordination des mouvements MNLA, HCIA et MAA dissidents, qui à Alger ont fait une déclaration sur la radio RFI pour dire que tous les gens qui ont des armes et qui ne sont pas à l'intérieur de ces mouvements doivent être désarmés et aller vers les sites. Alors que nous sommes des gens du terroir, nous sommes des gens de ces régions où tout ce que nous avons est sur le terrain.
Alors est-ce qu'à l'origine, votre groupe était armé?
Bien sûr, on était armés avant ça.
Vous faisiez partie d'un des groupes présents aujourd'hui?
On est à l'intérieur de la plateforme. La CMFR, les MAA et la CPA. On était à l'intérieur de cette plateforme.
D'accord.
Et on a assisté aux négociations avant qu'on crée ce mouvement. Mmh. On était à Alger. Au tout début, on était aussi en Mauritanie.
Donc c'est une fusion?
C'est une fusion, en fait. Est-ce que vous voyez?
Okay. Alors, est-ce que la formation de ce groupe a un quelconque rôle dans le report des pourparlers d'Alger?
Pas du tout. À ma connaissance, le report est venu du côté du médiateur. C'est le médiateur qui a demandé à ce que la date soit prolongée.
L'Algérie.
C'est pour des raisons, oui, d'organisation. Donc, c'est ce qu'on nous a dit. Sinon, en réalité, on a même suivi des formations déjà qui préparent déjà les terrains pour les négociations. Ici, la plateforme à Bamako, on a eu une séance de formation au centre CICB. Les quatre mouvements, la plateforme et les autres ont fait cette formation à Ouaga. C'était pour, en réalité, préparer les accords.
Alors, Amadou Aya, vous êtes du parti Yelema, parti de la majorité. Que pensez-vous des conséquences de ce report sur le processus? Pensez-vous déjà qu'il puisse y avoir conséquences?
Bonsoir, chers auditeurs. À mon avis, je ne vais pas parler de conséquences par rapport au report. Et, comme l'a si bien dit mon ami, c'est un report qui a été demandé par, n'est-ce pas, les autres groupes rebelles et qui ont saisi le médiateur compte tenu des dispositions ou en tout cas des raisons qui leur sont propres. On demande, souhaité que le médiateur, n'est-ce pas, contacte les autres parties pour le report. Et un léger report. Nous estimons que quand on veut aller à la paix, quand on veut aller à une négociation aussi sérieuse, un report de quelques semaines, si cela permettra de mieux avancer, nous ne pensons pas que cela constitue un handicap ou un frein, n'est-ce pas? Voilà.
Ok, alors qu'est-ce qui peut être à la base de ce report, Amadou Goïta, du Parti Socialiste?
Je vous remercie, je salue tous les auditrices et auditeurs de la radio Tamani. Qu'est-ce qui peut être à la base? Je ne saurais le dire. Je peux tout simplement dire que, contrairement à mon collègue Amadou Aya, ce port aura des conséquences pour le Mali. Puisqu'aujourd'hui, chaque minute qui passe est une minute de plus, chaque jour qui passe est un jour de plus. Nos populations souffrent dans le nord. La souveraineté du Mali ne s'exerce plus sur une grande partie du nord, Kidal, à 50 km de Gao, à 60 km de Tombouctou à Ber. Aujourd'hui, ce report prouve tout simplement que le Mali n'est pas maître de son destin pour ces négociations. Les raisons évoquées, jusqu'à preuve du contraire, nous entendons qu'on nous dise qu'est-ce qui motive ce report. Un calendrier avait été bien ficelé dans la feuille de route, calendrier au cours duquel le processus devait être bouclé au mois d'octobre par la signature d'un accord. Au moment où on reporte, c'est pour parler, c'est ce même moment que ces rebelles choisissent pour baptiser le camp, les deux camps de Kidal, pour encore réaffirmer leur emprise sur Kidal et pour encore prouver une fois de plus que Kidal n'est pas le Mali. Et nous assumons qu'en son temps, on avait demandé au gouvernement, comme le dit l'autre, quand tu refuses de choisir, les événements choisiront à ta place et t'imposeront. Nous n'avons pas choisi, c'est les événements du 21 mai qui ont choisi pour nous. Et aujourd'hui, malheureusement, d'ailleurs, le report, nous l'avons d'abord entendu à travers la presse privée avant que le gouvernement ne fasse un communiqué. Donc, j'ose espérer qu'il n'y aura pas un report de plus.
Voilà. Ok, alors je rappelle juste que nous avons convié le MNLA, enfin nous avons tenté de joindre le MNLA pour participer à ce débat, mais nous n'avons pas pu joindre les différents membres du MNLA pour participer à ce débat. Alors je reviens à vous, Abana Ag Hamzata du groupe Touareg Gatia, groupe armé aujourd'hui présent au nord. Quelle est la réelle capacité de Gatia dans le nord? Est-ce qu'il y a des zones sous contrôle de votre mouvement?
Pour le moment, je peux dire que le mouvement est bien assis au nord. Il a des capacités militaires que tout le monde connaît aujourd'hui. Vous le savez mieux que moi, qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des accrochages qui ont opposé le groupe Gatia, les MAA et la CMFPR à Tabankort et à Nefis, avec les MNLA, les HCIA et les MAA dissidents. Et je pense que chacun de nous connaît les résultats. Ce n'est pas la peine d'en revenir. Et je pense que si la plateforme n'était pas puissante sur le terrain, on aurait dû aujourd'hui quand même avoir plus de conséquences. Et je pense qu'on ne serait pas là où nous sommes.
Alors, sur le terrain, est-ce que vous combattez auprès de l'armée malienne ou bien comment ça se passe?
Pas du tout.
Vous êtes pro-Bamako?
Je ne le dirai pas. je ne le dirais pas ainsi. C'est un groupe d'outils de défense qui a choisi d'être dans une plateforme. C'est vrai que nous n'avons pas la même position que les autres, puisqu'en réalité, on est dans une plateforme qui a signé les accords de Ouaga et qui a toujours continué à les respecter. Et donc, on s'est fait respecter et on a choisi quand même d'attendre et d'aller vers les négociations et d'avoir quelque chose qui va aboutir au bonheur de tous les Maliens. Est-ce que vous voyez ? Donc, notre position, elle est claire. Nous sommes à Tabankort, nous sommes à Tarkent. Et on espère aussi progresser.
Alors, on le sait, lors de la première phase de pourparlers, le MNLA n'avait pas accepté d'être mis au même niveau que certains groupes d'autodéfense et certains groupes armés. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'aujourd'hui le MNLA voit la formation de Gatia?
Bon, comme vous venez de le dire, en fait, dans les détours d'Alger, ça a été très difficile pour la partie médiation de réunir les deux parties. Et la coordination des groupes HCA, MNLA, MAA dissidents et la plateforme. Ça a été très difficile, ils ont tenté, mais ça n'a pas marché. Et je pense que nous, on n'a pas de problème à ce niveau de s'asseoir avec les mêmes Maliens, qu'on discute sur les problèmes du Mali et qu'on trouve une solution. Du moment que tout le monde a reconnu l'intégrité territoriale du Mali, l'unité et la laïcité du Mali, je pense que c'est les lignes rouges du Mali. Et ça, tout le monde a accepté que le Mali soit atteint et indivisible. Donc je ne vois pas aussi des raisons de l'autre côté pour dire qu'on ne va pas s'asseoir sur une même table de négociation du moment que nous sommes du même tiroir. Nous partageons les mêmes espaces géographiques, nous partageons toutes les réalités quotidiennes de jour au jour. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas de l'autre côté.
Alors, Amadou Goïta, vous venez d'entendre Habana Ag Hamzata du groupe Touareg Gatia, groupe d'autodéfense, si on peut définir ça comme ça. Que pensez-vous de cet appui et de ce mouvement favorable aux actions de Bamako?
Ok, nous avons tous appris à travers la presse la création du groupe Gatia. Nous estimons aujourd'hui qu'on a des craintes aussi.
À l'opposition.
À l'opposition, on a un peu de craintes. Parce que nous sommes en pleine négociation. Fort heureusement, monsieur Aban vient de nous rassurer que le groupe Gatia n'est que la fusion de tous les groupes qui étaient à Ouaga et qui ont signé à poser leur signature sur l'accord de Ouaga. Sinon, c'est des craintes avec la naissance d'un nouveau groupe, ce qui risquera encore de compliquer davantage. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est que ce processus qui a été engagé à Ouaga, qu'il soit un processus inclusif, qui associe toutes les populations du Nord, toutes les parties prenantes. Maintenant, la question que se pose, le groupe Gatia vient de nous dire qu'il contrôle une partie du Nord. Est-ce que le drapeau malien flotte dans cette partie? C'est ça qui prouve un peu quelque part qu'ils ne se reconnaissent pas aux revendications de ceux qui ont pris les armes contre le Mali et qu'ils souhaiteraient eux aussi participer de façon efficiente à ce que le nord du Mali soit sécurisé, soit stabilisé et que la souveraineté du Mali s'exerce partout. C'est une question fondamentale qu'on se pose. On voudrait savoir toutes les intentions. Si cela y est, tant mieux. Si cela n'y est pas, pourquoi ?
Alors, nous allons permettre à Habana Ag Hamzata du groupe armé Touareg Gatia de répondre à cette question, mais juste après une courte pause.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Issa Ber de Niafunké, 96.3 MHz.
Vous venez de l'entendre, cette émission est écoutée dans la capitale du Poisson, Mopti, grâce à la radio Kounari de Sévaré. Un clin d'œil spécial à Moussa Traoré, le correspondant sur place, qui, au même titre que ses autres collègues de différentes régions, fournissent l'essentiel des informations régionales de Tamani. Ce soir, nous parlons de la relance des pourparlers d'Alger. Après le report du 17 août, cette deuxième partie est consacrée au statut à prévoir pour Kidal. Nos invités, Amadou Goïta, du Parti Socialiste, parti de l'opposition, Amadou Aya du Parti Yelema, parti de la majorité, et Abana Ag Hamzata du groupe armé Touareg Gatia. Alors, juste avant d'entamer cette deuxième partie qui parle du statut à prévoir pour Kidal et éventuellement pour les autres régions après les pourparlers d'Alger, nous allons permettre à Abana Ag Hamzata du groupe Gatia de réagir par rapport à l'interrogation de Amadou Goïta sur les réelles intentions du groupe Gatia. À vous.
Merci. Et pour la question de Goïta, je pense que c'est clair. Le Gatia a existé avant qu'on baptise les noms.
Sous quelle forme?
Il a existé. On a existé à l'intérieur de la plateforme. On avait des combattants, on faisait partie de tout ce qui se passe politiquement sur le terrain, et ça a été prouvé par l'alliance du protocole d'accord du 3 juillet 2014 qui a été signé à Gao entre les différentes communautés. Les communautés Songoui et alliées, les communautés arabes et alliées et les communautés Touareg, Imad et alliées. C'est à l'issue de ce protocole aussi nous a permis en réalité de mettre en force nos forces armées sur le terrain, devant les dangers. Puisque en fait, la plateforme est considérée, ce n'est pas seulement les Gatia, la plateforme, l'ensemble de la plateforme est considérée par la coordination des MNLA, HCIA et MAA dissidents comme en réalité des gens soutenus par Bamako. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'ils disent et c'est
Est-ce que vous l'êtes? Vous êtes soutenu par Bamako?
On n'a pas vu ces soutiens. On n'a jamais reçu de Bamako quelque chose. On n'a jamais reçu un soutien matériel, ni un soutien
quelque chose. Mais vous vous inscrivez dans l'État?
Nous nous inscrivons dans les accords de Ouaga. Il faut qu'on se respecte quand même. Quand on signe quelque chose, il faut qu'on se respecte. On a signé, qu'on a reconnu l'intégrité territoriale du Mali. Même le problème que Goïta vient de poser concernant le drapeau malien, concernant l'intégrité territoriale, mais tous ces trucs-là, ils ont été déjà débattus à Ouaga. Normalement, l'administration malienne doit s'installer progressivement. Les forces armées devront aussi s'installer progressivement dans le nord. Quelque chose qui a été déjà fait. Mais on a posé nous-mêmes le problème devant l'aménagement pour dire pourquoi l'aménagement est là. L'aménagement est là pour le soutien du Mali. Mais quelque chose qui ne se fait pas sur le terrain. Hein? Donc nous-mêmes, on l'a décrié et on a demandé même récemment dans les réunions, dans les discussions avec le gouvernement, que l'administration s'installe sur le terrain auprès des populations. Nous ne sommes pas contre. Nous voulons l'existence de l'État devant les vides. Il y a un vide, les populations souffrent énormément, comme il vient de le dire. Hein? Donc la situation est alarmante. Donc des gens qui veulent aller vers les négociations, vers un processus, je ne vois pas pour qu'il y ait des blocages.
Alors je rappelle encore une fois que nous avons tenté de joindre les membres du MNLA pour participer à ce débat, mais malheureusement nous n'avons pas pu les joindre. Alors Amadou Aya du parti Yelema, parti de la majorité, précisément du Premier ministre Moussa Mara, que pensez-vous de ce groupe Gatia, groupe Touareg armé aujourd'hui au nord et qui devra prendre part au pourparlers d'Alger?
Oui, mais permettez-moi de rappeler un peu la complexité, n'est-ce pas, de la situation dans le nord de notre pays, avec une multitude de groupes armés qui ont des revendications diverses, des agendas, des calendriers divers, et également la souffrance profonde, n'est-ce pas, de nos populations, de cette partie du Mali. Devant toute cette complexité du problème, à mon avis, il est important que ces négociations qui doivent s'ouvrir très bientôt doivent être bien préparées afin que toutes les parties prenantes puissent être sur la même table pour discuter du Mali. Et concernant le Gatia, c'est comme l'a dit notre ami, c'est un groupe d'autodéfense comme les autres. Donc nous ne voyons pas un problème si c'est un groupe d'autodéfense qui se retrouve, n'est-ce pas, pour avoir une même plateforme, toutes choses qui permettraient de faciliter, de simplifier, n'est-ce pas, les négociations. Parce qu'il est important d'avoir, au lieu d'avoir plusieurs groupes, il est souhaitable d'avoir deux groupes pour pouvoir discuter.
Alors, le caractère inclusif voulu par l'accord de Ouagadougou sera-t-il préservé? Si oui, le groupe Gatia et CPM pourront-ils participer à ce rendez-vous du 1er septembre à Alger, à Amadou Goïta? Et sur quelle base devra-t-on aller désormais?
Bon, c'est la question se pose. J'avais souhaité que Michel réponde à ma question, savoir si le drapeau malien flottait dans les localités qu'il contrôle. Malheureusement, la réponse n'a pas été donnée.
Maintenant, la précision viendra.
Okay. Maintenant, c'est le gouvernement qui peut juger de l'opportunité de voir les groupes d'autodéfense qui se reconnaissent dans l'unité du Mali, qui reconnaissent la souveraineté du Mali, qui reconnaissent la forme laïque du Mali. C'est le gouvernement qui pourra juger de l'opportunité de différents groupes qui peuvent et qui doivent participer à ces négociations. Le plus important aujourd'hui, c'est que nous nous rendons compte que la situation évolue et que ces populations ont décidé aussi de prendre leur destin entre leurs mains, qu'ils ne vont pas laisser leur sort entre les mains d'une minorité qui a toujours pris les armes contre le Mali, qui a toujours eu tout ce qu'ils ont demandé, mais qui malheureusement revient toujours à la charge. Donc si le Gatcha s'inscrit dans une dynamique de ses préalables et travaille dans ce sens, je ne vois aucun inconvénient. Mais ma crainte est que demain, il ne faut pas qu'il y ait une multiplicité de groupes, parce que cela amènera aussi un émiettement des négociations, puisque c'est pour parler en Alger. Il y a le dialogue inclusif, le dialogue intracommunautaire, intercommunautaire, dialogue qui doit partir du nord au sud, des Kayes jusqu'à Kidal. Mais j'estime quand même que pour les accords d'Alger, les pourparlers d'Alger, que le gouvernement doit ficeler pour éviter demain qu'il y ait aussi un certain nombre de blocages.
Alors, concernant cette question de Amadou Goïta par rapport au drapeau malien, à la présence du drapeau malien dans les zones que contrôle aujourd'hui Gatia, le groupe Touareg Gatia des Imrad, Abana Ag Amzata, vous êtes son représentant, le représentant de Gatia. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à cette question?
Merci. Si je n'avais pas répondu, ça veut dire que ça m'a échappé. J'avais oublié de répondre. Sinon, j'allais répondre oui. Nous ne sommes pas loin du dernier poste en réalité des FAMA qui est à Al-Mustarat. Nos positions ne sont pas loin de là-bas. Et je pense qu'à Al-Mustarat, les drapeaux maliens flottent, à Tarkent, les drapeaux maliens flottent, à Tabankort, les drapeaux maliens flottent. Parce qu'en fait, moi, je ne vois pas de problème du côté des drapeaux. Du moment qu'on a reconnu l'intégrité territoriale du Mali, l'unité, la laïcité, pour moi, les gens qui n'acceptent même pas les drapeaux maliens, c'est inutile. Est-ce que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je pense qu'aujourd'hui, le Gatia a sa présence dans les pourparlers d'Alger. Toute personne qui connaît le Nord, il sait que la communauté des Imrad est la communauté la plus importante et la plus nombreuse des Touaregs dans tout le Nord du Mali. Et les Imrad sont présents dans les 84 communes du nord du Mali. Donc, pour l'inclusivité même de cet accord, je pense qu'on ne pourrait pas faire quelque chose dans le nord où les Imrad, où cette communauté n'est pas associée. C'est très important même pour la paix, pour la sécurité, pour tout ce qui va se passer. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et moi j'ai dit, nous sommes dans la dynamique de la paix. Nous voulons vraiment aujourd'hui qu'il y ait la paix au nord du Mali. Nous sommes animés de cette volonté. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'on a assisté à des négociations, à ces débats. On était déjà dans le processus. Et tout dernièrement, il n'y a pas longtemps, l'AMINISMA, la commission qui est partie pour laisser ses effets sur le terrain, a vu sur le terrain les Gatia, la CMFR, les MAA, tous réunis. À Tarkent, à Bancourt, ils ont discuté. Est-ce que vous voyez? Et on était même parti plus loin pour être dans les commissions EMOV, dans les commissions mixtes, pour la sécurité, pour le suivi des accords d'Alger, et finalement, des accords même de Ouaga, qui ont finalement fini par les négociations d'Alger.
Alors, doit-on s'attendre à un nouveau blocage par rapport à votre participation à Alger? Est-ce que vous avez l'assurance que vous serez accepté par les mouvements comme le MNLA à Alger?
Moi, je pense que ce n'est pas le MNLA qui nous donne l'autorisation de participer aux négociations. Je pense que c'est la partie médiation, c'est l'AMINISMA, c'est l'État malien, c'est les médiateurs. Ce n'est pas ni les MNLA, ni les HCIA, ni les MA dissidents qui nous donnent cette permission. On a déjà aussi participé, puisque nous sommes dans la plateforme commune des quatre mouvements. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va participer, on va y aller.
Alors est-ce que, Amadou Goïta, il va falloir négocier un statut particulier pour Kidal ou bien pour les autres régions? Est-ce que la régionalisation que... tente de vendre aujourd'hui le gouvernement malien peut apporter une solution à cette large autonomie ou bien cette large autogestion demandée par certains groupes?
Non, je ne pense pas qu'il faut aller à un statut particulier pour Kidal. Je pense que la régionalisation concerne toutes les régions du Mali, les 8 régions plus la capitale administrative. Aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est de faire l'évaluation d'abord des différents accords signés. Depuis l'accord de Tamaracet, le pacte national, les accords d'Alger, les accords de Ouaga, pour analyser et voir qu'est-ce qui, malgré que le Mali s'est engagé avec ses groupes armés, je ne dirais pas que c'est les mêmes. Certains, après la signature du pacte national, sont restés républicains, sont dans le Mali, sont en train de travailler pour le développement du Mali. Ceux qui ont continué à prendre les armes, pourquoi? Est-ce un problème de développement? Est-ce un problème de repli identitaire? Où se trouve le problème? La question à ce niveau. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au renforcement de la décentralisation. La décentralisation a montré un certain nombre d'insuffisances. Il y a eu le transfert des ressources humaines. Malheureusement, le transfert des ressources financières n'a pas suivi. Maintenant, ces insuffisances doivent être corrigées. Effectivement, il y a des problèmes de développement partout au Mali, mais c'est vrai, c'est plus accentué au nord et à Kidal, plus que les autres régions. Ça appartient maintenant au gouvernement malien, plus les partenaires techniques, pour voir comment contribuer au développement de Kidal, pour que les jeunes qui prennent les armes, parce que n'ayant aucune autre opportunité, voilà, alternative, voilà, je pense que le problème se pose à ce niveau. Sinon, aller à un statut particulier, c'est accepter de fait la partition du Mali.
Alors, Amadou Aya, vous êtes du parti ILMA, parti de la majorité. Aujourd'hui, Amadou Goïta vient de parler de l'étude des différents accords passés entre le gouvernement malien et les groupes armés durant les crises précédentes. Alors, la commission, justement, qui devra statuer sur cette question, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, peine à se mettre en place. Est-ce que vous pensez que cette commission peut avoir un quelconque rôle dans la résolution de cette crise?
Bon, je ne pense pas que la commission peine à se réunir. Vous ne pouvez pas
parler... Les membres n'ont pas été nommés jusqu'à
présent.
Oui, mais
vous ne pouvez pas parler déjà de la commission Justice et Réconciliation, tout ceci, tant qu'on n'est pas arrivé à un accord. Aujourd'hui, comme l'a dit M. Goïta, il est important de faire ça, de faire une évaluation, n'est-ce pas, des différents accords. Et à mon avis, je crois que l'équipe de négociateurs qui a été mise en place par le gouvernement, à sa position, n'est-ce pas, ces différents accords, c'est des gens qui déjà ont eu à faire une évaluation à leur niveau des différents accords pour leur permettre d'aller vers, n'est-ce pas, cette fois-ci vers un accord définitif. Donc il n'est pas aujourd'hui la priorité, n'est-ce pas, du gouvernement, c'est d'abord d'arriver à cette signature. Et la commission Justice, Dialogue et Réconciliation viendra après faire son travail.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la dernière partie de cette émission qui parlera du DDR, le désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants. Mais juste après quelques secondes de pause.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkin 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Merci pour votre fidélité. Ce débat parle de la reprise des pourparlers d'Alger. Dans cette troisième partie, nous tenterons de comprendre le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants dans les différents groupes armés du Nord en conflit aujourd'hui avec le gouvernement malien. Cette réinsertion est-elle possible? Le désarmement, la démobilisation, le DDR donc, est-il possible aujourd'hui, Ahbana Ag Hamzata? Je rappelle que nous sommes également avec Amadou Aya du parti Yelema, Amadou Guita du parti socialiste. Alors Ahbana Ag Hamzata du groupe Gatia, groupe Touareg aujourd'hui formé entre les deux phases de pourparlers Alger. Est-ce que le DDR est possible aujourd'hui?
Merci. Moi je pense que il faut d'abord commencer. Ce qui est important, c'est d'arriver, comme vient de le dire mes prédécesseurs, c'est d'arriver à un accord définitif et global. C'est dans cet accord qu'on va parler justement du DDR, de mobilisation, désarmement et réinsertion. Et si les acteurs sont animés de bonne volonté, on est obligé d'arriver au DDR. Alors, il faut obligatoirement un désarmement, il faut obligatoirement un cantonnement, il faut obligatoirement une démobilisation et une réinsertion, comme l'a prévu l'accord de Ouaga.
Alors aujourd'hui, la théorie, c'est un peu ça à Alger, mais sur le terrain, est-ce que le terrain est favorable aujourd'hui à la mise en place du DDR? Toujours avec vous, Ahbana Ag Hamzata.
Comme je viens de le dire, si les gens, si toutes les parties ont la volonté, elles réaffirment leur engagement à l'accord de Ouaga, elles réaffirment leur engagement à ce qu'ils vont signer demain à Alger, je pense que c'est possible, bien sûr, sur le terrain. Le DDR est bien sûr possible.
Alors, Amadou Goïta, du Parti socialiste, parti de l'opposition, on l'a vu, le mécanisme a un peu traîné bien avant la visite du Premier ministre qui a mis le feu aux poudres à Kidal. Cette mise en place du DDR a traîné. Pensez-vous qu'on puisse aller à la vitesse supérieure cette fois-ci?
Bon, vous l'avez bien souligné, ce DDR était déjà mentionné dans les accords de Ouaga, qui avait même prévu d'abord le cantonnement, le désarmement, plus la réinsertion socio-économique de ceux qui avaient pris les armes. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre le processus. Pour revenir un peu sur ce que mon collègue Amaraya vient de dire tout de suite, la commission vérité des conciliations ne doit pas attendre qu'on signe un processus de paix pour travailler. Non, je crois qu'elle doit même anticiper. Il doit anticiper puisqu'il ne peut pas avoir de paix, il ne peut pas avoir de dialogue tant qu'il n'y a pas la justice. Je pense que là, c'est un travail préalable. La commission a été mise en place depuis. Le décret quand même a passé, l'Assemblée nationale a adopté. Maintenant, nous ne savons pas pourquoi le gouvernement tarde à mettre l'équipe en place. Maintenant, nous avions dit DDR, oui, désarmement, démobilisation, réinsertion, je suis d'accord, mais pas question pour nous aujourd'hui de dire que ceux qui ont pris les armes contre le Mali, ceux qui ont versé du sang, ceux qui ont amené dans cette situation pendant 2 ans, qui ont mis le palais à terre, qu'on le réintègre encore dans notre armée, ils n'avaient pas besoin de ça. Après le pacte national, je pense qu'ils avaient toutes les voies pour y parvenir. Depuis le pacte national, il y a un régime de tarifs fiscales préférentiels pour les 3 régions du Nord et principalement pour Kidal. Depuis le pacte national, depuis les accords d'Alger, il y a une discrimination positive pour ces 3 régions et surtout pour Kidal. Et malgré tout, ils ont continué à prendre les armes. Je ne pense pas que ce sera un bon exemple aujourd'hui de dire que ceux qui ont pris les armes, il faut les réintégrer dans l'armée malienne. Développer, créer les conditions d'un développement économique à Kidal pour qu'ils ne songent plus à prendre les armes, oui. Mais nous pensons quand même que notre armée est en pleine reconstruction et nous avons besoin aujourd'hui d'une armée adaptée aux réalités d'en face. Une armée professionnelle, une armée qui, demain, pourra défendre l'intégrité territoriale du Mali.
Alors, selon vous, Amadou Goïta, comment faire aujourd'hui pour éviter les conflits cycliques si on ne parvient pas à recycler ou bien à réinsérer ces combattants dans l'armée? Où devront-ils aller?
Non, je crois qu'il faut anticiper. Il faut anticiper ces crises. Nous savons que la crise de 2012 était au-delà de nos frontières. Maintenant, nous avions, pendant ces deux années, fait l'analyse de la situation. Nous nous sommes rendus compte qu'il faut avoir un État fort, il faut la bonne gouvernance, il faut également avoir une armée forte. Ceux qui ont pris les armes, ceux qui ne sont pas rendus coupables de crimes odieux, pourront bénéficier de l'accompagnement de l'État malien. Je ne pense pas qu'ils ont pris les armes pour aider les généraux. Je ne pense pas qu'ils ont pris des armes encore pour intégrer l'armée malienne. Il y a plein de domaines. C'est vrai, la paix n'a pas de prix. Elle a un coût. Mais il y a des limites aussi qu'il ne faut pas franchir. Nous l'avions fait en 1992. Alpha a intégré des milliers de mouvements qui ont pris les armes. Mais ça n'a pas empêché encore que ces mêmes reprennent les armes contre le Mali. Je pense que cette fois-ci, à travers la loi d'orientation militaire, qu'il faut un peu respecter ces règlements. Maintenant, le reste est politique. C'est politique. Il faut développer les régions du Nord avec l'accompagnement de tout le monde, de toutes les communautés. Je ne pense pas que Gatché a pris les armes pour intégrer l'armée malienne. Non, ils se sont dit que trop c'est trop, ça suffit. Et je pense que même ceux qui ont pris les armes ont compris que leur aventure est ambiguë. Elle est ambiguë et qu'ils n'ont pas intérêt à continuer sur ce chemin puisqu'ils ne trouveront personne qui va les accompagner. Mais l'État aussi doit montrer sa détermination dans un certain domaine.
Alors, toujours avec vous, Amadou Goïta, que devra être le rôle de la MINUSMA dans la mise en place du DDR?
Le rôle de la MINUSMA, c'est d'accompagner l'État malien. Notre gouvernement avait souhaité que le mandat de la MINUSMA soit renforcé dans la résolution 2164. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais même ce mandat qui existe aujourd'hui, c'est d'appuyer les autorités maliennes à asseoir la stabilité du Mali, à sécuriser, à chercher une solution pacifique à ce conflit. Donc je pense que l'aménagement doit être aux côtés du gouvernement malien, accompagner notre gouvernement, mais l'initiative doit venir de l'État malien. Moi, j'aurais souhaité que, pour parler de Ouaga, que la feuille de route du Mali devrait être l'émanation du gouvernement malien, des experts maliens. Malheureusement, ce que nous avons appris, c'est une feuille de route qu'on a soumise à la partie de médiation en les demandant d'améliorer. Je pense que c'est les insuffisances que nous devons éviter. Aujourd'hui, nous devons tirer les leçons de tout ce qui s'est passé et dire que nous devons mettre notre destin. Surtout, nous avions le monde à notre côté. L'ensemble de la communauté internationale est disposée aujourd'hui à accompagner le Mali. Mais l'initiative doit venir de l'État malien. Voilà pourquoi je suis un peu sceptique quant au report même. Les raisons du report n'ont pas été évoquées. Et si demain encore il y a un autre report, allons-nous éternellement continuer à être dans un report? Allons-nous accepter que la souveraineté du Mali ne s'exerce plus dans différentes parties du Mali? C'est des questions qui méritent d'être posées aujourd'hui et qui nécessitent la concertation de l'ensemble des forces vives de la nation pour qu'ensemble nous ayons une position consensuelle, une position commune.
Alors, dans quel calendrier faut-il prévoir cette question de DDR Amadou Aya, du parti Yelema?
Oui, moi je crois que M. Koïta, sa position, effectivement, on comprend.
Quelle position?
Son scepticisme par rapport au report. Je pense que quand vous partez à une négociation avec des personnes avec qui vous êtes en conflit, il est important que vous preniez en compte également leur position. Je ne peux pas aller dans une négociation pour dire, monsieur, en face, bon, écoutez, moi, voilà ce que je vous propose à prendre ou à laisser. Nous ne sommes pas dans une telle position. Et quand vous négociez, je ne vous les apprends pas, il faut quand même avoir un peu de flexibilité, un peu de compréhension. Si la partie avec qui vous discutez demande un report, il est tout à fait normal que vous dites, ok, nous sommes prêts, mais nous vous accordons ce temps pour y arriver. Par rapport au calendrier, ce calendrier va être discuté au sein des groupes. Parce que si vous regardez au niveau de la feuille de route, il y a des thèmes. Dans les thèmes, il y a des thèmes qui seront très à traiter, c'est pas spécifiquement de ces questions de DDR. Le DDR est un processus qui est presque maintenant universel dans tous les conflits.
Dans la résolution des conflits.
Donc à ce titre, il est important. On ne peut pas aller tout à l'heure dans les détails pour dire vous avez pris les armes, vous n'allez pas intégrer notre armée. Quelqu'un qui accepte, on a parlé de commission justice, vérité et réconciliation. Quelqu'un qui accepte, n'est-ce pas, de passer devant la justice. Quelqu'un qui a le pardon, qui s'inscrit dans l'État, qui demain dit ok, je ne prends plus, j'avais pris les armes contre mon pays, je présente mes excuses, que l'État accepte que ce même individu. Vous refusez à ce qu'il intègre l'armée ou un autre corps.
Donc, en somme,
à mon avis,
vous êtes pour la réinsertion.
Mais la réinsertion, oui, quand vous dites réinsertion, vous n'allez pas faire de restriction. Il n'y a pas de restriction dans la réinsertion. C'est des questions qui vont être traitées au niveau d'un groupe thématique.
D'accord. Alors, cette question va faire couler beaucoup d'encre et de salive, Abana Ag Hamzata. Dans quel secteur vous êtes du Gatia, du groupe Touareg, groupe armé Touareg Gatia, des Imrad? Dans quel domaine il va falloir intégrer les combattants aujourd'hui? Avez-vous une idée du secteur dans lequel devront aller les combattants?
Vous savez... Et je pense que prochainement à Alger, comme vient de le dire mon collègue, il y aura 4 thèmes qui seront débattus en profondeur. Il y a le premier thème, institutions politiques, il y a le deuxième, forces de défense et sécurité. Je pense que c'est ce thème qui va s'appuyer sur les DDR de mobilisation, désarmement et réinsertion. Et moi je pense, quand on va dans une négociation, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et il y a certains aussi qu'on ne peut pas prendre. Ça, c'est chacun d'entre nous le sait déjà. Et je pense que quand vous regardez un peu les documents de la régionalisation dont vous avez tout à l'heure parlé, je pense que dans ces documents déjà, on donne beaucoup plus de pouvoir au président du conseil régional. N'est-ce pas? Donc dans ces pouvoirs, il y aura la police communale, il y aura beaucoup de trucs. Est-ce que tu vois qu'ils vont absorber le chômage de la jeunesse. Il va falloir aussi réfléchir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que notre armée aujourd'hui a des problèmes. Est-ce que vous voyez, il faut la renforcer, il faut la donner toutes les capacités pour asseoir une sécurité dont on a besoin. Et comme vous le savez aussi, le Nord est très compliqué, très complexe. Il y a beaucoup de problèmes que je ne peux pas dire sur le plateau. Il va falloir la conjugaison de tous les efforts des enfants de ces pays pour sécuriser les frontières, le long des frontières du Mali.
D'accord. Nous allons en rester là. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre participation. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Elle s'achève ici et parlait de la relance des pourparlers d'Alger après le report demandé par les groupes armés. 3 volets ont été analysés dans cette émission. Le report de la date des pourparlers avait-il une conséquence sur la suite du processus? Le statut particulier pour Kidal ou bien pour les autres régions? Si la régionalisation est une réponse à cette question, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, le DDR donc, a été amplement débattu. Nos invités, Amadou Aya du parti Yelema, parti de la majorité, Amadou Goïta du parti socialiste, parti de l'opposition, Abana Ag Hamzata du groupe armé Touareg Imrad Gatia. Merci à vous messieurs pour votre participation. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Petit Ndiara était à la mise en onde. Nous vous disons à demain pour le débat du Parlement.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.